À 8h, le journal Alexis Demeyer. Bonjour Alexis.
Bonjour. 5 blessés dans une attaque au couteau cette nuit près de New York. L'assaillant s'était introduit chez un rabbin qui fêtait Hanouka. Il a été interpellé. La répression des fraudes alerte sur les arnaques au foie gras. Trop de fabricants ajoutent de l'eau, ce qui bien sûr fait gonfler le poids des blocs de foie gras. Une maternité garantie sans perturbateurs endocriniens. C'est à Limoges que ça se passe. Limoges, une ville signataire depuis 2015 de la charte des territoires sans perturbateurs endocriniens. Ces substances cancérogènes présentes, entre autres, dans les pesticides et les cosmétiques. Le journal des sports d'Antoine Martin dans moins de 10 minutes. Antoine va notamment nous parler football avec le limogeage de l'entraîneur de l'AS Monaco. Leonardo Jardim est remplacé par l'Espagnol Robert Moreno. Et puis votre invité à 8h20, Eric.
À 8h20, le pape de la pâtisserie, Philippe Conticini, mondialement reconnu. Il raconte son parcours et sa quête du goût dans un livre. Ça s'appelle « Cochon de lait, le goût de l'enfance ». Le livre paraît aux éditions du Cherche Midi.
France Inter.
Une attaque au couteau chez un rabbin cette nuit aux États-Unis dans une petite ville près de New York. Ce rabbin orthodoxe célébrait chez lui la fête juive de Hanouka en présence de plusieurs dizaines de convives. Un homme a blessé plusieurs personnes avec une machette, Loïc Loury.
L'attaque est survenue un peu avant 10 heures. Les faits se sont déroulés à Monsey, à environ 40 km de New York. Une importante communauté juive orthodoxe vit ici. C'est la résidence d'un rabbin hassidique qui a été prise pour cible. Quelques dizaines de personnes étaient présentes, réunies pour les célébrations de Hanouka. Un individu y a fait irruption, poignardant plusieurs personnes avant de s'enfuir. La police indique avoir arrêté un suspect sans préciser les circonstances de cette attaque et surtout le mobile de l'assaillant. Tout cela, en tout cas, intervient alors que les autorités ont enregistré ces derniers mois une recrudescence des actes antisémites dans la région de New York. Il y a 3 semaines, notamment, une fusillade avait fait 4 morts dans une épicerie cachère de Jersey City. Les enquêteurs avaient alors évoqué des faits de terrorisme intérieur. New York, Loïc Loury, France Inter.
Le dernier bilan de l'attentat de Mogadiscio en Somalie, il est de 79 morts, une centaine de blessés, bilan provisoire.
Hier matin, une voiture piégée avait explosé dans un quartier très animé de la capitale somalienne. Parmi les victimes, de nombreux étudiants d'une université située à proximité du lieu de l'attaque. Une attaque qui n'a pour le moment pas été revendiquée, mais les autorités somaliennes semblent l'attribuer aux islamistes Shebab affiliés à Al-Qaïda. Le collectif Pour une Syrie libre et démocratique appelle à un rassemblement contrôlé. Bombardement à Idlib cet après-midi à Paris. Ces 2 dernières semaines, plus de 200 000 civils ont dû fuir cette ville syrienne visée par une offensive du régime de Damas et de son allié russe. Plus à l'est, à Raqqa, c'est devenu un champ de ruines. Il y a 2 ans, la coalition internationale avait libéré la ville, jusque-là aux mains du groupe État islamique. Mais depuis, la ville peine à entamer sa reconstruction. Le reportage de Noé Pignède.
Des montagnes de gravats, des immeubles éventrés, des routes défoncées par les mortiers. Voilà ce qu'il reste du quartier d'El Narda, dans le centre-ville de Raqqa. 2 ans après la libération, la rue est presque déserte. Seuls quelques habitants comme Tarif vivent encore ici.
Pendant les combats, tout le monde était coincé ici. Le quartier était assiégé. L'immeuble là devant vous était occupé par Daesh. Avant de s'enfuir, ils l'ont brûlé pour faire disparaître tous leurs documents. Les autres bâtiments ont été détruits par les bombardements.
Tarif nous invite dans ce qu'il reste de sa maison. Ce père de 2 enfants vient de reconstruire les murs du premier étage, mais il n'a plus d'argent pour continuer les travaux.
Ils nous ont dit que les organisations humanitaires allaient nous aider, mais en 2 ans, personne n'est jamais venu. Moi, j'ai un diplôme de juriste, mais il n'y a pas de travail. Je dois faire le taxi pour survivre. Où est la reconstruction? Où est le travail? Où est l'espoir?
Selon les autorités locales, il faudrait près $1 milliard pour reconstruire l'ancienne capitale de l'organisation État islamique. De l'aide qui peine à arriver tant la situation politique et sécuritaire demeure instable dans la région. 2 ans après la libération de Raqqa, 1 bâtiment sur 2 est toujours à terre. Raqqa, Noé Pignède, RFI pour France Inter.
Au 25e jour de la grève contre la réforme des retraites, encore d'importantes perturbations dans les transports. À Paris, la RATP annonce que 13 lignes de métro seront fermées ce dimanche. Seules les 2 lignes automatiques, la 1 et la 14, vont circuler. À la SNCF, on annonce pour aujourd'hui en moyenne 3 TGV sur 5 et 4 TER sur 10. Hier, à Rennes, une centaine de cheminots se sont rassemblés à l'appel des syndicats CGT, FO et Sud. Au programme, une distribution de tracts afin de mieux faire passer leur message auprès des voyageurs. Adrien Berria.
Bonjour.
Merci.
Bonjour.
Messieurs, dames, voici un petit peu de lecture pour votre voyage en train. Hervé de la CGT Ille-et-Vilaine a le coup de main pour distribuer ses tracts de 4 pages.
C'est un document qui a été déjà distribué à plus de 40 000 exemplaires dans le département. On n'a jamais fait une aussi grosse diffusion de mémoire de syndicalistes dans ce département.
Un document plutôt bien reçu par une grande majorité des voyageurs comme Marie.
Je comprends qu'on soit obligé d'en arriver là pour défendre la retraite par répartition qui est grandement menacée. Je ne suis pas sûr que tout le monde comprenne ça.
J'espère qu'on va vous foutre dehors avec un con, coup de pied dans le cul.
Certains usagers, par contre, semblent plutôt lassés par la grève.
Vous représentez que vous-même.
Cet ingénieur à la retraite, ancien membre du MEDEF, est carrément excédé.
Vous êtes des privilégiés, c'est clair.
Oui, vous êtes des privilégiés et vous emmerdez tout le monde. Vous
une réaction assez virulente qui n'étonne pas Dominique, un cheminot rennais.
Ils sont déjà en retraite et ça ne les dérange pas du tout que nous, on travaille plus longtemps. Eux, ils sont en retraite, donc ils sont plus concernés. Les gens soutiennent plutôt le mouvement. On a plus de sourires que de gens qui disent qu'on emmerde le monde.
Et hier, les cheminots ont joint l'action syndicale au caritatif. Ils ont organisé une collecte de dons et de jouer au profit du Secours Populaire sur le parvis de la gare.
Le reportage d'Adrien Berria de France Bleu Armorique. Trop de foie gras gonflé à l'eau dans nos rayons. Sur 21 blocs de foie gras analysés par la répression des fraudes, 9 contenaient une quantité d'eau supérieure à 10%, c'est-à-dire la limite autorisée. Plus grave encore, 5 des 6 produits labellisés IGP pour indication géographique protégée se sont révélés non conformes, Camille Descroix.
Cette enquête édifiante, datant de 2018, a été réalisée dans près de 70 établissements. Sur 21 blocs de foie gras prélevés, 9 d'entre eux contenaient une quantité d'eau supérieure à la limite autorisée. L'enquête indique également que trop de racines de plumes ont été retrouvées dans certains plats à base de confit de canard. Enfin, sur 6 produits labellisés, 5 se sont révélés non conformes pour des problèmes de composition. Des dénominations interdites ou des lacunes dans l'étiquetage ont aussi été constatées concernant des préparations à base de foie gras. Au total, sur les 35 prélèvements analysés par les laboratoires de la répression des fraudes, 17 ont été déclarés non conformes et 2 à surveiller. Ces pratiques ont été immédiatement sanctionnées par les enquêteurs.
On part à Limoges, Alexis. Limoges, une ville à la pointe de la lutte contre les perturbateurs endocriniens.
Oui, depuis 2015, la ville de Haute-Vienne s'est engagée à bannir ces substances qui agissent sur notre système hormonal avec des risques de cancer et d'infertilité. Les perturbateurs endocriniens sont présents dans les pesticides, les emballages plastiques et les cosmétiques. Dans les crèches municipales de Limoges, les biberons en plastique sont par exemple remplacés par des biberons en verre et les assiettes en plastique dans les cantines sont maintenant en porcelaine. Nouvel exemple en date, la clinique des émailleurs qui vient de recevoir le label Maternité Saine. Le reportage à Limoges de Rebecca Alexis Langard.
Il était temps de faire le tri car les perturbateurs endocriniens sont partout dans les maternités. Cosmétiques pour bébés, matériel professionnel, restauration. Sandra Robière, sage-femme responsable maternité, nous explique.
On a commencé en 2018, donc on a commencé par les cosmétiques bébés et les couches. Pendant la grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant, c'est là la période la plus critique par rapport à ces produits-là.
Justement, Laurie, jeune maman qui vient d'accoucher de son 2e enfant, est attentive face à ce danger.
On se pose toujours des questions. C'est vrai que pour mes enfants, je regarde voilà, si ça va être bio, s'il va y avoir des toxines, pour qu'ils aient pas de problème.
Il y a des astuces pour les repérer, même s'il n'est pas facile de les déceler.
C'est tous les parabènes, hein, tout ce qu'on a, on en parle depuis très longtemps. Il y a des applications qui permettent aux gens de les aider. Nous, on travaille avec UFC Que Choisir. On scanne le code barre du produit et ça dit si c'est un produit qu'on peut utiliser sans danger ou s'il y a des risques ou pas.
Mais le tri se fait aussi au niveau des lobbies.
Les laboratoires nous harcèlent au niveau des maternités et on en a éliminé beaucoup par ce processus-là de labellisation. Moi, je leur dis clairement que tant qu'ils ne nous proposeront pas des produits propres, je ne les réaccepterai pas en maternité.
Mais il faut encore que la démarche vienne du consommateur pour que les laboratoires adaptent leurs produits et fassent un effort pour bannir ces substances chimiques.
Rebecca Alexis Langarde, France Bleu Limousin. En Australie, les habitants de Sydney ne veulent pas de feux d'artifice pour la nouvelle année. Une pétition récemment lancée a en tout cas déjà réuni 260 000 signatures. Les signataires demandent à la mairie de Sydney d'investir le budget de son feu d'artifice, plus de 4 millions d'euros, dans la lutte contre les incendies qui font rage depuis plusieurs semaines dans le sud-est de l'Australie. Au moins 3 millions d'hectares, l'équivalent de la Belgique, ont déjà été ravagés par les flammes. Le maire de Sydney a déclaré apprécier les motivations des pétitionnaires, mais en décidant de maintenir le traditionnel feu d'artifice, précisant que son annulation nuirait gravement à l'économie locale.
C'était le journal d'Alexis Demeyer. Voici Antoine Martin que l'on accueille. Bonjour Antoine.
Bonjour Eric.
C'est l'heure des sports. On commence en football avec la Ligue 1 à la veille de la reprise de l'entraînement. Voilà Monaco qui licencie encore son entraîneur.
Leonardo Jardim va toucher pour la deuxième fois une juteuse prime d'indemnité. C'est son deuxième licenciement en 14 mois. À l'époque, il avait touché près de 8 millions d'euros. L'entraîneur portugais a été licencié hier. Pourtant, les Monégasques restaient sur une dernière victoire 5-1 face à Lille en championnat et une septième place au classement de la Ligue 1 à 5 points du podium. Jardim et Le Rocher, une histoire très singulière. Boris Lemagne.
11 mois et puis s'en va de nouveau. Leonardo Jardim a donc été congédié par les dirigeants de Monaco pour la deuxième fois en un peu plus d'un an. La première, c'était en octobre 2018. Il avait alors été débarqué pour laisser sa place à Thierry Henry avant d'être rappelé 3 mois plus tard pour sauver le club du Rocher de la relégation. Mais cette saison, malgré un recrutement de luxe avec notamment Ben Yedder et Fabregas, l'histoire entre le coach et Monaco aura tourné court. Leonardo Jardim apparaissait de plus en plus distant ces dernières semaines, vivement critiqué par les supporters, lâché en interne par les stars du vestiaire. L'entraîneur portugais restera tout de même comme l'homme du titre de champion de France en 2017. Cette année, il laisse une équipe 7e du championnat à seulement 5 points du podium. Et puis Jardim n'a pas tout perdu. Après avoir touché 8 millions d'euros lors de son premier licenciement, il devrait cette fois-ci repartir avec un chèque de plus de 4 millions d'euros. Le tout donc en à peine un an et demi.
Pour le remplacer, si Laurent Blanc a été un temps évoqué, le nouvel entraîneur de Monaco est espagnol. L'arrivée de Robert Moreno, l'ancien adjoint de Luis Enrique au Barça et éphémère sélectionneur de l'équipe d'Espagne, a été officialisé dans un communiqué. Il a signé un contrat jusqu'en 2022. C'est la première fois que Moreno prend la tête d'un club en tant qu'entraîneur principal.
Le championnat français qui se prépare pour 2020 en Angleterre depuis hier, de la 20e journée en Première Ligue.
Oui, il y a un Français qui a brillé avec Manchester United, c'est Anthony Martial. Déjà auteur d'un doublé il y a 3 jours face à Newcastle, il a récidivé hier. Buteur à Burnley dans le succès 2-0 des Red Devils qui sont 5e du championnat. Les Mancuniens juste devant Tottenham, l'équipe de José Mourinho accrochée chez le dernier Norwich 2 buts partout. Aujourd'hui, derby londonien entre Arsenal et Chelsea à 15h. Le leader intouchable Liverpool reçoit Wolverhampton à 17h30. Enfin, Manchester City affronte Sheffield à 19h.
Le rugby avec Lyon qui reprend provisoirement la tête du championnat.
2 points d'avance pour le Loup en attendant le déplacement de Bordeaux à Pau cet après-midi. Les Rodaniens ont étrié Bayonne à domicile hier, victoire 52-9 avec le bonus offensif. Une large victoire sur le papier, même si l'équipe de Pierre Mignoni s'est retrouvée par 2 fois en infériorité numérique. L'entraîneur lyonnais satisfait tout de même de la sérénité dégagée par son groupe.
Vous savez que ça allait pas être simple. Bayonne est une équipe qui s'accroche partout, donc... Avoir un score comme ça à la fin, c'est une bonne performance pour nous. Et voilà, j'étais content de l'attitude de mes joueurs. En deuxième mi-temps, on aurait pu un peu s'affoler, parce qu'on avait quand même fait 9 fautes en première mi-temps. On aurait pu un peu s'affoler, et ces genres de matchs, t'avais 2 essais d'avance, mais il n'y avait que 8 points d'avance. En plus, il loupe 2 pénalités importantes. Et... Donc voilà, ces genres de matchs, c'est un peu tendu. Et il faut rester calme et rester sur ce qu'on doit faire plutôt bien, quoi.
Lyon qui relève la tête après 2 défaites consécutives en championnat, tout comme le Stade français, dernier de top 14. Les Parisiens enchaînent enfin 2 résultats positifs. Ils ramènent un match nul 20 partout de Montpellier, tandis que son voisin francilien, le Racing 92, met fin à la série d'invincibilité d'un an et demi de Brive à domicile. Victoire des Racingmen 44-20 en Corrèze. Fin de la 12e journée ce dimanche, avec Bordeaux qui se déplace à Pau et qui peut reprendre seul la tête du classement de top 14. La Rochelle reçoit Agen, Castres se déplace à Clermont et à 21h le choc Toulouse-Toulon.
Le Metz Handball a retrouvé son entraîneur champion du monde.
Le championnat de France féminin de handball reprend aujourd'hui avec la rencontre Metz-Nantes à 17h. Les Messines, championnes en titre, est désormais entraînée par un entraîneur champion du monde, Manu Mayonnade, en poste à Metz depuis 2015. Il a remporté le mondial le 16 décembre dernier avec la sélection des Pays-Bas. Avec ce titre, Emmanuel Mayonnade et sa fidèle adjointe russe Katia Andriushina sont plus attendus que jamais avec leur club de Metz. L'entraîneur le sait et l'assume parfaitement.
Il y a pire comme compression, mais c'est super que de savoir effectivement que le travail, clairement, parce qu'il y en a, nous permet à Katia et à moi, bien évidemment, de fructifier aussi un petit peu tout ça. Alors, c'est sûr que si jamais il n'y avait pas eu tout ça, ça aurait été non pas complexe à vivre, hein, mais c'est de l'engagement, c'est effectivement pas mal de sacrifices encore. Maintenant, il y a des échéances avec Metz Handball aussi à venir pour la fin de saison qui sont assez extraordinaires. Conserver le titre, conserver la Coupe de France, revivre un Final Four et plus si affinité, sont autant de choses qui, à mon avis, doivent nous permettre, à nous, à Katia et à moi, mais bien évidemment aux joueuses aussi et à la structure, d'être très concernés par cette belle fin de saison.
En tête du classement de ce championnat de France féminin, les Messines sont à égalité de points avec Brest.
Et voilà, c'était le journal des sports donc d'Antoine Martin. Merci Antoine. Le temps de ce dimanche. Et attention au brouillard ce matin, hein, Jean-Michel Golinski. Attention au brouillard sur les routes.
Du brouillard parfois givrant et des nappes de grisaille plus répandues en début de journée au nord de la Seine, sur le centre, le Val-de-Saône, le Lyonnais, l'Alsace et au sud de la Garonne, dans des températures qui, en dehors des côtes et des régions méridionales, affichent 0 à moins 2 degrés en général, jusqu'à moins 4 sur la plaine d'Alsace. Aujourd'hui, persistance d'un temps calme et sec, avec sur la plupart des régions un très bon ensoleillement dès la matinée, sauf près de la Garonne, du Val-de-Saône à la haute vallée du Rhône, sur le centre Val-de-Loire et l'Alsace, où le gris pourra persister plus longtemps. Et puis, près de la Méditerranée, le ciel sera plus chargé qu'hier, notamment sur le littoral, dans des températures de 6 à 10 degrés cet après-midi dans la moitié nord, 10 à 15 au sud.